Europe 1. Écoutez le monde changer.
En fait, tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant est un mensonge. Tout le monde sait que c'est un menteur. Vous avez choisi le mauvais type au mauvais endroit, au mauvais moment.
La courtoisie du début n'a pas duré longtemps. À 3h15 du matin, heure de Paris, cette nuit, Joe Biden traite Donald Trump de menteur. La suite ne sera qu'une litanie d'interruptions et de noms d'oiseaux, enfin presque, caniche, clown, marionnette, pire président que l'Amérique ait jamais eu.
Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Europe 1, en direct de l'Ohio. Le débat était censé suivre un fil conducteur, mais les spectateurs auront sans doute été complètement perdus.
Ah oui, je vous confirme que c'était une bouillie, hein. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment très pénible à regarder. Tendu, chaotique, brouillon, le pire débat de l'histoire, une honte, voilà les commentaires abasourdis des médias américains. Alors on savait que Donald Trump allait être agressif, mais à ce point, il a harcelé Joe Biden avec des interruptions incessantes. L'ancien vice-président a bien tenté de garder son calme, d'abord avec des sourires moqueurs, des rires, puis des soupirs, et enfin il n'a pas pu s'empêcher de dire à Donald Trump de la fermer. D'ailleurs, c'est la phrase qui restera de ce débat. Elle est déjà imprimée sur des t-shirts mis en vente sur Internet. Et pour moi, il y a un moment saisissant qui symbolise ce débat. C'est le coup de gueule du modérateur, le journaliste de Fox News, Chris Wallace.
Messieurs, je déteste lever ma voix, mais je pense que ce serait un service pour le pays si vous vous laissez chacun parler avec moins d'interruptions. Et je vous demande à vous, monsieur le président, de faire ça.
Mais lui aussi.
Mais franchement, vous avez fait plus d'interruptions que lui.
Il en fait beaucoup.
Moins que vous.
Vous l'entendez ? Le modérateur parle au président des États-Unis comme à un enfant, et c'est arrivé plusieurs fois pendant le débat. Et évidemment, dans cette foire d'empoigne, bien sûr, on a très peu parlé des sujets de fond.
Alors Xavier, est-ce qu'on distingue ce matin quand même un vainqueur ?
Alors moi, je vais vous dire que Donald Trump n'a pas gagné et Joe Biden n'a pas perdu. Dans le camp démocrate, on a poussé un ouf de soulagement. L'ancien vice-président n'a pas craqué, il n'a pas fait de gaffe, même s'il est un peu descendu se battre dans la boue avec Donald Trump. Et le président, lui, était très fébrile. Il devait absolument créer un moment, marquer des points pour combler son écart dans les sondages. Bah, c'est raté. Les sondages des chaînes de télé qu'ils font juste après les débats donnent, eux, Joe Biden vainqueur. Ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a un grand perdant qu'on peut désigner ce soir, cette nuit, sans se tromper. Ce sont les Américains.
Ce soir, cette nuit pour vous, Xavier Yvon, ici à 8h du matin en France. Merci Xavier, en direct de Cleveland, aux États-Unis pour Europe 1.
Le Covid-19 était l'un des enjeux de ce débat. Joe Biden a rappelé que son adversaire promettait l'extinction du virus avant la fête de Pâques. C'était au mois d'avril dernier. En France, on a recensé hier 59 morts, 8000 nouveaux cas de contamination et un taux de positivité des tests qui augmente encore 7,6%.
À Dijon, on a découvert deux clusters dans deux promotions distinctes de l'université de Bourgogne. Résultat, cours à distance pour 900 étudiants, Jean-Luc Bougeon.
Dès la découverte de 7 cas positifs en troisième année de médecine et en première année de psychologie, la direction de l'université décide de suspendre les cours en présentiel. 900 élèves, 2 promotions complètes, 600 psycho, 300 médecine, sont immédiatement priés de rester chez eux, explique Alain Helleux, directeur général des services de l'université de Bourgogne.
Il faut réagir très vite et puis vraiment l'idée majeure, c'est de freiner l'expansion. À partir du moment où on a des étudiants qui sont positifs et qui ont été cas contact avec d'autres étudiants, donc avec un phénomène qui peut s'amplifier, mettre tout le monde à distance les uns des autres, c'est la seule mesure efficace pour freiner la contagion.
Résultat, depuis lundi, les étudiants suivent les cours de chez eux sur leur ordinateur. C'est le cas de Mélanie, étudiante en troisième année de médecine.
Ils ont remis en place ce qu'on avait pendant le confinement via la plateforme Teams. Tous les jours, donc on a nos cours à l'heure prévue. Mais c'est sûr qu'on apprend moins bien, beaucoup moins participatif, on va dire. Vu qu'on est chez nous, on est plus attiré par autre chose, peut-être moins de concentration. On a moins envie de suivre les cours, on a moins envie d'apprendre. C'est pas comme d'habitude. Ça m'inquiète un peu.
La fac assure que les cours et les TP seront rattrapés un peu plus tard dans l'année, ce qui ne sera en revanche pas possible pour les stages en hôpital des étudiants de médecine. Dijon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
8h04 sur Europe 1. Plusieurs fois repoussée, la stratégie contre les séparatismes doit être déroulée par Emmanuel Macron. Ce sera dans 2 jours, vendredi, au Mureau, en banlieue parisienne.
Et le gouvernement se prépare pour poser les termes du débat. Bonjour Jérémy Bodo.
Bonjour François, bonjour à tous.
Vous avez pu consulter des documents confidentiels où sont pointées des situations de séparatisme.
Oui, c'est un document d'une dizaine de pages où sont répertoriés des cas concrets
de séparatisme. Ces exemples doivent permettre aux ministres et aux équipes de défendre, notamment dans les médias, la réalité du problème pointé par l'Élysée. Alors dans ces exemples, on trouve ici une école confessionnelle clandestine en Seine-Saint-Denis, là un lieu de culte interdit dans l'Hérault, ou encore des librairies islamistes dans le Nord. Pour chaque cas, les documents pointent la difficulté d'apporter une réponse adaptée. Faute de législation, les autorités ne sont intervenues qu'avec des moyens en fait de police administrative. Par exemple, en fermant l'école d'Aulnay-sous-Bois pour des infractions au code de la santé ou de la construction, des moyens évidemment limités face aux problèmes communautaristes.
Jean-Rémy, politiquement, quel est l'enjeu de donner ces exemples de séparatisme ?
Eh bien, du côté de la place Beauvau, on affirme qu'il est important d'illustrer la réalité du problème. Au ministère de l'Intérieur, beaucoup attendent le projet de loi contre les séparatismes pour être en capacité de lutter plus frontalement contre le phénomène. Pour une fois, on ne se cache pas, on parle bien de la lutte contre l'islam politique, confie un conseiller. À l'Élysée, on reconnaît que le sujet reste délicat. Un proche du président pointe l'enjeu d'éviter, je cite, les surenchères et les postures sur ce sujet. Vendredi, l'entourage d'Emmanuel Macron promet néanmoins, je cite, des réponses concrètes.
Information signée Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 en direct. Merci Jean-Rémy. L'économie et ce nouveau soubresaut de la crise. Énorme plan social chez Disney qui va se séparer de 28 000 salariés dans le monde. Sa branche parc d'attractions, croisières et produits dérivés est très touchée par la crise.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Visite d'une maison de naissance, un lieu pour des accouchements plus en douceur. Dispositif qui va être étendu.
Et puis le foot, retour du débat sur le racisme alors que le président de la fédération disait ceci il y a quelques jours sur Europe 1.
On ne peut pas tout contrôler, mais ça ne peut pas être le football. Le football n'est pas raciste.
Une position répétée qui fait bondir Patrice Evra, on l'entendra.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h08 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
C'est une structure qui va être dupliquée. Les maisons de naissance, 8 sont en expérimentation depuis 5 ans. Le projet de budget pour la Sécu prévoit d'en créer 12 nouvelles.
Reportage de Victor Delande dans l'une de ces maisons plus faiblement médicalisées que les maternités classiques.
Bonjour, bienvenue au Calme. Le Calme, en fait, c'est l'acronyme de comme à la maison. Et ce qu'on essaye de faire dans les chambres de naissance, bah, c'est ça, c'est qu'on se sente comme à la maison.
Visite avec Margot Dacieux, membre du Calme. Tous les parents peuvent aménager cette chambre à leur goût.
Ici, il y a évidemment une grande baignoire, il y a un grand lit de place. On a des tapis de sol, si la maman se sent mieux pour le travail au sol.
Ce qui dénote aussi avec une autre chambre d'hôpital classique, c'est qu'il n'y a pas de table d'accouchement.
On laisse aux mères la liberté de choisir la position dans laquelle elles se sentent le mieux. Et ça n'est quasiment jamais allongé sur le dos.
La première fille de Camille est née à l'hôpital, ça ne s'est pas bien passé du tout. Pour son deuxième bébé, elle ne voulait pas revivre cette expérience.
On passe dans des hôpitaux où il y a énormément d'accouchements, il faut aller vite, enfin c'est comme ça. C'est l'industrie des bébés, on est comme des voitures qu'il faut produire à la chaîne, ta. J'entends dans les copines qui racontent leur accouchement, il y a comme une acceptation du fait que ce soit, ça se passe pas bien, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir un enfant en bonne santé. Et en fait, on peut avoir un enfant en bonne santé et un bon accouchement.
Et c'est ce qu'elle a eu, un accouchement beaucoup plus respectueux, dit-elle. Dernier détail, Camille a même pu dormir avec son conjoint et son nouveau-né dans le plus grand calme, bien loin du bruit de fond permanent d'un hôpital.
Un reportage de Victor Dolande. Jusqu'à 10 matchs de suspension, c'est ce que risquent le Marseillais Alvaro et le Parisien Neymar. La commission de discipline de la Ligue de football doit dire cet après-midi s'il y a eu insulte raciste d'Alvaro contre Neymar et réponse homophobe de Neymar contre Alvaro lors du PSG d'OM d'il y a 2 semaines. Souvenez-vous, 14 cartons jaunes et 5 rouges. Dans ce contexte, voilà que Patrice Evra refait parler de lui. L'ancien capitaine des Bleus tape sur l'actuel président de la Fédé.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu.
Patrice Evra n'a pas digéré les propos de Noël Le Graët sur le racisme qui n'existerait pas dans le football. Il lui répond, et de quelle manière ?
Une vidéo très cash, 8 minutes sur Instagram, dans laquelle il dénonce certains dessous pas propres de ses 12 ans en équipe de France. D'abord, ses lettres d'insultes racistes qui arrivaient régulièrement, selon lui, à Clairefontaine, adressées aux Bleus et à Didier Deschamps.
Combien de lettres on reçoit ? Racistes, des lettres, hey, Didier, mais reprends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles. Combien de lettres comme ça, mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs aient... Mais moi, j'en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis de caca.
Et puis, Patrice Evra va plus loin. Il parle de pratiques discriminatoires au sein même des Bleus lors de la venue d'un président de la République à Clairefontaine, sans doute François Hollande, en 2014. Evra affirme qu'on a écarté des joueurs noirs de certaines photos qui immortalisaient la visite pour privilégier Hugo Loris et Laurent Koscielny.
Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en France, on n'est pas chez nous.
À l'époque, Hugo Loris était capitaine et Laurent Koscielny, corrézien, un intime de François Hollande. Aucune réaction ce matin de la fédération ou de son président. Noël Le Graët, à qui Patrice Evra demande de quitter son poste.
Jérôme Lacroix en direct pour Europe 1. À Roland-Garros, au premier tour, pire résultat français depuis 1972. Voici tout de même la liste des Françaises et Français qui ne sont pas éliminés. Ferro, Herbert, Gaston, Père, Bonzi, Cornet, Garcia et Burel.
Merci beaucoup. Oui, c'est plus facile de faire la liste de ceux qui ne sont pas éliminés, malheureusement. Journal de Roland dans une vingtaine de minutes. Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h12.